RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense, donc j'agis. On a parlé dans la première heure de Pauline Jaricot, qui sera béatifiée à Lyon ce dimanche 22 mai. Pauline Jaricot, qui est aussi à l'origine des œuvres pontificales missionnaires. On va justement s'intéresser à ces OPM, hein, comme on les appelle, et de toutes leurs missions à travers le monde depuis Rome, avec vos témoignages. Voilà, est-ce que vous avez l'habitude de soutenir les œuvres pontificales missionnaires? Pourquoi est-ce que c'est important de faire vivre l'Église partout dans le monde? Pour reprendre ce petit slogan, venez témoigner au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23, et par mail également à direct@rcf.fr.
Jusqu'à 11h, je pense, donc j'agis sur RCF.
On accueillera également Pascal Gréboval à 10h20 qui nous parlera de la journée mondiale du vivre ensemble en paix. C'est aujourd'hui, le 16 mai, une journée qui a inspiré Pascal Gréboval du magazine Keizen qui nous en parlera un petit peu plus tard à 10h20. Nous sommes toujours avec vous, Gaëtan Bouchard-Lachazotte. Rebonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général des OPM, hein, les œuvres pontificales missionnaires, et nous a rejoint dans ce studio l'abbé Kom Taiyewo Adjomale. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur national des OPM au Bénin, c'est ça?
C'est cela.
Vous êtes arrivé quand en France, ici?
Jeudi.
Jeudi?
Oui.
Ouais. Pour vivre la béatification de Pauline
Jaricot. D'abord l'Assemblée générale des OPM et la béatification de Pauline Jaricot.
C'est un événement qui est important pour vous?
Très important, et j'ai jugé bon de me faire accompagner par deux secrétaires nationaux.
Ouais, très bien. Et voilà. Gaëtan Bouchard-Lachazotte, il va y avoir, comme ça, dimanche prochain, à Lyon, beaucoup de directeurs nationaux des OPM réunis.
Alors effectivement, dans l'organisation des OPM, nous avons tous les ans une assemblée annuelle qui se tient habituellement à Rome, qui rassemble l'ensemble des directions nationales du monde entier, c'est-à-dire à peu près 120 directeurs nationaux qui ont la charge sur place de rappeler la mission des OPM, de réveiller les fidèles catholiques sur leurs devoirs missionnaires, les appeler par la prière et par leurs dons à soutenir les églises que nous appelions autrefois les églises des territoires de mission ou les jeunes églises. Voilà. Et nous tenons cette assemblée annuelle cette année de manière tout à fait exceptionnelle à Lyon. Donc nous accueillons déjà depuis jeudi, vendredi, les directeurs qui arrivent des quatre coins du monde. Et puis l'assemblée démarre effectivement aujourd'hui. Une assemblée qui dure 10 jours, oui. Au cours de laquelle il y a plusieurs parties, mais une partie administrative et statutaire, j'allais dire juridique, classique comme dans toute assemblée. Une partie de distribution, c'est-à-dire que les secrétariats internationaux qui sont à Rome maintenant ont reçu un certain nombre de demandes pour aider l'Église sur place dans les besoins qu'elle peut avoir en termes d'évangélisation. Ça peut être des constructions, ça peut être des moyens de subsistance, ça peut être aussi la vie de l'Église simplement, la vie de l'Église ou la vie du séminaire. Et puis donc les secrétariats internationaux ont fait un peu un tri dans toutes ces demandes en fonction un petit peu des fonds, oui, qui ont été collectés dans le monde entier. Et puis il nous est proposé au cours de cette assemblée d'accepter ou pas ce premier tri qui a pu être fait depuis Rome. Donc c'est à l'issue de cette assemblée qu'on va provoquer l'ensemble des distributions qui seront faites dans ces pays.
Donc vous vous réunissez en personne. Oui. C'est la première fois depuis le Covid ou
Oui.
Ouais. Donc c'est aussi un deuxième grand événement pour vous.
La rencontre après le Covid, oui. C'est cela.
Pourquoi c'est important de se réunir comme ça aussi?
C'est important de se réunir parce que nous venons de quatre coins du monde, disons des cinq continents, et il arrive une fois l'an que nous puissions nous rencontrer. D'abord, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. On apprend à connaître ce qui se passe en Inde. Et c'est un temps d'échange. Et c'est important aussi parce que c'est autour du président des OPM, son Excellence Monseigneur D'Altozo, et des quatre secrétaires. Et c'est le temps aussi, comme Gaëtan l'a dit, d'harmoniser nos points de vue en ce qui concerne la distribution. Les collectes sont faites à la base dans toutes les églises locales du monde. Mais la redistribution pour que aucune église ne soit dans la gêne, et il ne soit pas dans le trop-plein. Donc c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est ce qu'on peut dire.
C'est très beau et je ne sais pas si je pense qu'il faut ressouligner ce que vient de dire le directeur national du Bénin, c'est que tout le monde assure cette tâche qui est celle des EPM. Ce n'est pas les pays riches qui viennent aider les pays pauvres, c'est l'ensemble de l'Église qui se préoccupe de la question de l'évangélisation et qui invite à la prière et qui invite au don. Et les pays qui vont recevoir ont aussi eux-mêmes collecté. Alors à leur mesure et en fonction des moyens des fidèles, et ils vont peut-être recevoir ce que les pays occidentaux ne recevront pas, mais ils ont aussi participé à cette collecte mondiale.
Et cette collecte s'appelle le Fonds universel de solidarité.
J'aimerais qu'on revienne quelques instants sur Pauline Jaricot. On en a parlé rapidement dans la première partie. Elle est à l'origine des OPM, des œuvres pontificales missionnaires. Quel est l'historique, Gaëtan Bouchard-Lachazotte?
Alors en fait, Pauline a entendu parler dans son enfance de la question missionnaire. On est, je l'ai dit tout à l'heure, dans un milieu très proche de l'Église. On y rencontre des prêtres. Son frère Phileas va devenir prêtre d'ailleurs. Il est proche des Missions étrangères de Paris, qui est donc une congrégation religieuse, une société de prêtres qui a été fondée quelques siècles auparavant et qui est dédiée aux missions en Asie. Et donc il va découvrir par là même et partager ça avec sa sœur les besoins de ces missionnaires. Alors il faut se resituer aussi dans une époque où on ne voyage pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Donc le missionnaire français par exemple qui veut annoncer le Christ, il part dans une terre absolument inconnue. Il ne sait pas ce qu'il va trouver. D'ailleurs, il est probable qu'il va même décéder en route parce qu'il va attraper des maladies dans les bateaux, etc. Et si vous voulez, rien n'est organisé pour accueillir le missionnaire, ni même pour lui permettre de parvenir à son lieu d'évangélisation. Donc ce souci, Pauline va l'avoir. Son frère va la solliciter un petit peu. Écoute, débrouille-toi, mais il faut qu'on trouve des aides. Et là, elle va imaginer un plan qui est, voilà, tout à l'heure je disais que c'était une faiseuse de plans. Un plan de collecte où on va pouvoir associer tous ceux qui le veulent bien, y compris ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et on va créer un système de groupe qui, avec un appel à chacun des membres de ce groupe à créer d'autres groupes. Et on va avoir ainsi une organisation par dizaines, par centaines, par milliers. Et à travers cette organisation, on va tenter de distribuer de l'information, dire aux fidèles, voilà ce qui se passe dans les territoires de mission, voilà ce qu'on découvre. Vous savez, le missionnaire de l'époque n'est pas non plus uniquement un homme qui part avec un goupillon. C'est souvent aussi un scientifique, c'est souvent un explorateur, c'est quelqu'un qui va découvrir des cultures, qui va s'intéresser à la vie qu'il découvre et s'y investir. Paisiblement, d'ailleurs, pas forcément de manière, d'ailleurs jamais de manière brutale. On a tendance à confondre colonisation et évangélisation. C'est quand même deux choses très, très différentes, exactement. Même si les deux choses ont pu avancer ensemble. Et donc, Pauline va lancer cette œuvre de la propagation de la foi.
En 1822, c'est officiellement
Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée du plan date de 1819. Pauline va la lancer tout doucement et la constitution officielle de l'œuvre sera en 1822. On va garder en France les sièges internationaux jusqu'en 1922. Et en 1922, l'Église, j'allais dire, s'agrège les œuvres qui ont été créées. Il y a quatre œuvres en question. Enfin, à l'époque, il n'y en a que trois, mais disons qu'il y a quatre œuvres pontificales. Une œuvre est dédiée au soutien des diocèses, l'œuvre de la propagation de la foi, de manière générale, un peu comme un denier du culte, si vous voulez. Une autre œuvre est dédiée au séminaire. Elle s'appelle l'œuvre de Saint-Pierre-Apôtre, fondée par les Dames Bigard en Normandie. La troisième œuvre est dédiée aux enfants, c'est-à-dire l'éducation, les écoles, les orphelinats, mais aussi des dispensaires, qui s'appelle l'œuvre de la Sainte Enfance ou l'œuvre de l'Enfance Missionnaire, fondée par Mgr de Formin-Janson à Paris, après beaucoup d'échanges avec Pauline Jaricot. Voilà. Donc, et c'est ces œuvres-là, quand l'Église, se les agrège, elles vont recevoir ce titre de pontifical. Donc, en fait, pontifical est un titre, c'est pas une nature, si je puis dire. C'est un titre qui est donné à chacune des œuvres qui continue son travail en fonction de la mission qui est la sienne.
Et quand est-ce que c'est devenu officiellement les œuvres pontificales missionnaires comme on les connaît aujourd'hui, alors, les OPM?
C'est-à-dire qu'en France, nous avons décidé de communiquer sur le titre général des œuvres. Voilà. Donc elles sont pas, il n'y a pas eu de transformation. Il y a toujours l'œuvre de la propagation de la foi, il y a toujours l'œuvre de Saint-Pierre-Apôtre, toujours l'œuvre de l'enfance missionnaire.
C'est une entité,
C'est un titre que chacune des œuvres. C'est-à-dire qu'en fait, officiellement, les titres sont œuvres pontificales missionnaires de la propagation de la foi, œuvres pontificales missionnaires de Saint-Pierre-Apôtre, œuvres pontificales missionaires de l'enfance, de la sainte enfance.
Voilà. Abbé Komtayewa Djomale, c'était très moderne comme fonction. Pour Pauline Jaricot à l'époque, je trouve, de créer ces groupes
vraiment, parce que elle a senti le besoin que l'Église avait en ce temps-là de se mettre ensemble, de soutenir l'œuvre des missionnaires. C'est pas d'abord la collecte, comme il a dit, c'est d'abord la prière pour les missions, et ensuite la collecte vient parce que, comme on le dit, un homme et une mission, des moyens. Donc la collecte est venue comme des moyens pour accompagner les missionnaires. Et on ne peut que se réjouir aujourd'hui de ce qui est parti d'une jeune laïque lyonnaise et qui était une œuvre privée, disons, qui est devenue aujourd'hui une œuvre d'abord au niveau national de la France et ensuite qui s'est diffusée dans le monde entier, qui est devenue une œuvre au point que Rome a voulu à un moment donné et intervenir, comme il a dit, sur l'agrégé à partir du 3 mai 1922 par le pape Pie XI. Et c'est comme cela que c'est devenu. On doit pouvoir se réjouir de ce qui a été fait.
Ouais. Pauline Jaricot, est-ce qu'elle est connue, elle est respectée au Bénin?
Bon, et, oui, elle est connue. Je me rappelle qu'à la fin du grand séminaire, en 2004, on nous a distribué une photo, une image de Pauline Jaricot. Mais à l'époque, on ne la connaissait pas trop. C'était un peu vague pour nous. Une Lyonnaise qui a travaillé pour les OPM. On ne connaissait pas grand-chose. Ouais. Mais nous avons commencé à comprendre un peu, lorsqu'on a commencé à parler des OPM et les besoins des églises. Et lorsque, en 2018, j'ai été nommé à la tête des OPM, nous avons choisi comme maître mot la visibilité, donner la visibilité aux OPM. Et c'est dans ce sens-là que, lorsqu'on nous a dit que Pauline Jaricot sera faite bienheureuse, sera béatifiée, nous avons commencé donc à travailler, à communiquer abondamment sur elle. Si vous allez sur notre site web aujourd'hui, OPM Bénin, vous trouvez que nous sommes en train de faire des comptages même. Chaque jour, mon chargé de communication a commencé depuis un mois. A dit jour J moins 29, jour J moins 28, peut-être que c'est jour J.
Le compte à rebours.
Le compte à rebours, jusqu'au jour de la béatification. Nous communiquons abondamment à ce niveau-là. Il y a déjà des pliants qui sont partis pour Pauline Jaricot. Et dès que nous allons rentrer dans une émission sur Radio Ave Maria pour parler longuement d'elle. Mmh. Les évêques nous ont demandé de faire en sorte que les laïcs puissent prendre comme modèle, comme exemple, Pauline Jaricot, qui est partie de rien du tout, qui a senti cet appel, ce charisme-là. Et qui a demandé avec la lumière de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, c'est devenu ce que c'est devenu. Donc, on veut de plus en plus que des laïcs interviennent dans notre église, que ce soit pas une église cléricale, où c'est le clergé qui décide tout, mais que les laïcs puissent prendre leur pas. Comme on le dit, c'est-à-dire mettre la main à la pâte et faire en sorte que, comme Pauline Jaricot, on puisse aider la mission à aller tout de l'avant. Voilà un peu ce qu'on peut dire.
Et vous, elle vous inspire dans votre vie?
Elle m'inspire beaucoup.
Assez personnel, oui.
D'abord, c'est dans sa simplicité. Et ensuite, c'est-à-dire la radicalité évangélique qu'elle a vécue. Nous savons tous qu'elle est issue d'un milieu un peu aisé, puisque, d'après ce que nous avons lu, son père devait être propriétaire d'une usine de soie. Donc, elle avait un mode de vie de ce temps-là un peu élevé. Mais dès qu'elle a senti cet appel du Seigneur, elle s'est dépouillée de tout cela, au point qu'elle est revenue à la condition des ouvriers de son père et a continué à travailler. Donc, elle nous explique beaucoup dans la simplicité de la mission et nous faisons en sorte que, et comme elle, nous puissions donc comprendre qu'on peut partir de rien et avancer pourvu qu'on apporte ce qu'on a à la mission. Et qu'on doit savoir aussi, elle nous explique dans le sens que dans la mission, il faut s'attendre aussi à des déboires. Nous savons tous comment Pauline Jaricot a fini lorsque les gens l'ont dépouillée de ce projet qu'elle avait de pouvoir faire en sorte que la condition ouvrière soit améliorée. On voit comment elle a fini. Donc cela doit inspirer le missionnaire que moi je suis ou bien le missionnaire que nous sommes. On dit que la mission n'est pas que joie. Il y a aussi des peines.
Gaëtan Bou, Charlotte Chazotte, cette béatification de Pauline Jaricot, pour les OPM, qu'est-ce que c'est? C'est un souffle, c'est un événement qui est très important aussi pour les équipes en interne.
Ah, c'est un événement qui est important, bien sûr, pour les équipes en interne. Vous savez, notre équipe est petite parce que nous sommes 17. Donc, si ça se réduisait au contentement des équipes, ce serait réduit. Non, je pense que c'est vraiment une chance que l'Église universelle la propose comme modèle aux fidèles, compte tenu de son histoire et puis, j'allais dire, de la correspondance entre nos deux époques qui sont certes différentes et je ne suis pas historien, mais qui ont des éléments de proximité, à savoir une certaine déchristianisation, des conditions sociales difficile. Voilà, donc vraiment c'est une chance. Et puis nous en profitons pour rappeler à travers cette figure le devoir missionnaire de chacun d'entre nous. À partir du moment où nous sommes baptisés, eh bien nous ne sommes pas juste chargés de cultiver une petite foi en intérieur, mais bien sûr d'annoncer le Christ, d'apporter ce cadeau que nous avons reçu partout autour de nous et jusqu'au bout du monde. C'est vraiment quelque chose qui tenait à cœur à Pauline Jaricot et qui donc nous permet de rappeler un peu quelle est notre mission et comment les fidèles peuvent peut-être la recevoir. Et comme le soulignait le directeur national du Bénin qui est à côté de moi, c'est la première des œuvres d'évangélisation, c'est la prière.
pour que vive l'Église partout dans le monde. C'est votre slogan, signature?
C'est la signature des OPM de France.
Des OPM de France. Vous faites beaucoup de choses. Il y a beaucoup de... Alors que ce soit des événements, des opérations qui sont menées, on pense à la semaine missionnaire, par exemple. Alors elle est passée, hein, c'était en
octobre.
J'allais dire janvier.
La semaine missionnaire est une demande faite par ce qu'on appelait à l'époque le Conseil supérieur de Lyon, des œuvres pontificales, enfin de l'œuvre de la propagation de la foi à Lyon, qui demande au Saint-Père d'instituer une journée missionnaire mondiale. Voilà. Et à cette occasion, donc, on est en 1926, on crée le dimanche des missions. Qui est une occasion dans l'Église de rappeler à tous, de se rappeler à nous-mêmes le devoir missionnaire, le devoir d'annonce. Hein, c'est simplement, vous savez, rien n'a été inventé depuis les apôtres. Alors parfois on nous rétorque que la mission elle est ici et que c'est déjà pas mal et que préoccupons-nous déjà de notre mission ici et on aura fait du bon boulot. Et d'ailleurs on nous reproche souvent de ne pas participer ou de ne pas financièrement soutenir des actions missionnaires qui ont lieu en France. Et puis on nous rappelle que nous accueillons énormément de prêtres étrangers qui viennent servir dans nos paroisses, dans nos diocèses. Et que donc, c'est déjà très missionnaire comme ça. Mais avec ce type de raisonnement, les apôtres n'auraient jamais quitté Jérusalem et nous ne serions pas évangélisés. Voilà. Donc, évidemment, c'est pas du tout le cas. Et dès les premiers temps du Christ, la mission, c'est d'aller évangéliser toutes les nations. Voilà. Donc, par notre baptême, nous sommes appelés à évangéliser toutes les nations. Alors, on n'est pas tous appelés à partir physiquement et aller à l'autre bout du monde. En revanche, on est tous capables de prier pour l'activité missionnaire de l'Église, pour l'annonce du message du Christ, pour faire connaître le Christ. Et puis, on est tous capables, éventuellement, de partager un peu de nos moyens, à la hauteur de ce qu'ils sont, pour aider l'Église à assurer cette annonce.
Pour le Bénin, les OPM au Bénin, il y a une autre signature. La mission renforce la foi.
Exactement. Nous l'avons prise de l'exhortation apostolique de Jean-Paul II, Redemptoris Mission, le numéro 2. Dans un pays où cohabitent trois grandes religions, d'abord la religion traditionnelle, le vaudou, et l'islam, et la religion chrétienne, nous avons vu que renforcer les bases de la mission et enseigner la mission, avoir la spiritualité de la mission, le charisme de la mission, c'est pour nous une façon de renforcer la foi qui est déjà là. Parce que, en tout Africain, bien dans le béninois, le dahoméen que je suis, il y a déjà les germes de foi, ce qu'on appelle les attentes, qui était déjà là avant que la missionnaire n'arrive. Parce que l'Afrique a une forte religiosité. Mais cette religiosité, que s'est greffée la foi qui est venue. Et pour le Bénois que je suis, venir à Lyon pour nous, ça revêt beaucoup de symbolisme parce que les missionnaires qui évangélisent de façon continue le Bénin, en 1861, viennent de Lyon. Donc leur consécration a été faite à la chapelle de Notre-Dame de Fourvière, que nous sommes allés voir avec émotion. C'est la première fois que je mets pied à Lyon.
C'est vrai?
Oui. Ouais. Donc c'était avec sous la responsabilité de Monseigneur Melchior de Brésillac, Marion. Oui.
Le même prénom que moi.
Ah, voilà. Mais les deux qui ont pu fouler le sol du Dahomey en 1861, c'était le père Borghero, il est de Genova en Italie, et puis le père Francisco Fernandez. Le français qui était dans le groupe est mort malheureusement de la fièvre jaune à Freetown, en Sierra Leone. Donc on n'a pas pu voir le Dahomey. Mais la mission a été faite. Donc, pour revenir à ce que Saint-Dieu dit, pour un pays où nous avons une forte religiosité, mais qui vient du paganisme, on a besoin que la mission, la spiritualité du missionnaire, puisse renforcer la foi et faire en sorte qu'elle ne soit pas une foi teintée du syncrétisme, mais une foi vraie, une foi qui est capable de se porter, de déplacer les montagnes.
Si on va sur le site internet des OPM Bénin, on voit quatre personnages, vous savez, sur le site internet. Alors, on reconnaît Pauline Jaricot.
Le fondateur.
Qui sont les trois autres personnes?
Et M. Gaëtan l'a déjà dit. Nous avons appelé Pauline Jaricot qui a fondé la propagation de la foi en 1822. Nous avons en 1843 déjà. Et Mgr Charles-Auguste de Forbin-Janson, qui était évêque de Nancy et qui... s'étant inspiré de ce que Pauline a fait pour les adultes, a voulu faire la même chose pour les enfants. Et nous avons la naissance là de la Sainte Enfance. Donc c'est ça, sa photo qu'on voit. La troisième photo, c'est celle de Jeanne Bigard. Bon, on reconnaît la paternité, j'allais dire la maternité même, de l'œuvre de Saint-Pierre-Apôtre à Jeanne Bigard. Parce que la maman l'a reconnu que c'est sa fille qui a eu l'initiative. C'était en 1889. Donc nous avons cette troisième figure. La quatrième figure, c'est celle de du père Paolo Mana, le bienheureux Paolo Mana, qui en 1916 a fondé l'Union Pontificale Missionnaire. Cette dernière œuvre qui s'occupe de la formation, l'information, disons, sur le terrain, et surtout, comment renforcer la fraternité au niveau du clergé, pour que dans cette spiritualité-là, on puisse s'aider dans la mission. Voilà donc les quatre figures que vous voyez, les trois figures et qui sont ajoutées à celle de Pauline Géricault.
Et on va continuer d'en parler jusqu'à 11h ce matin dans Je pense, donc j'agis. Alors, cette béatification, elle aura lieu dimanche, hein, dimanche 22 mai. Mais avant ça, aujourd'hui, c'est aussi une journée importante et on va en parler avec notre chroniqueur. Bonjour Pascal Gréboval.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Vous êtes le rédacteur en chef de Kaizen Magazine. Alors, aujourd'hui, c'est le 16 mai, c'est la journée mondiale du vivre ensemble en paix. Une thématique qui doit, j'imagine, vous inspirer ce matin, Pascal.
Je vais vous faire une confidence, Melchior. Je n'ai jamais vraiment bien compris cette notion de vivre ensemble, qu'on sort souvent comme un étendard, une injonction dans les médias, les débats, jusqu'à en faire une journée mondiale. Peut-être suis-je un grand naïf, mais selon moi, nous sommes condamnés, contraints de vivre ensemble. Dans le métro, dans le bus, les entreprises, les associations, même les paroisses et même en famille avec sa belle-maman, comme l'évoquait le pape François récemment, mais aussi avec beau-papa. Bref, nous passons notre temps à vivre ensemble avec des gens que l'on n'a pas toujours choisis. Notre vie, c'est côtoyer l'altérité.
Mais peut-être qu'il n'est pas toujours facile, Pascal, de vivre avec les autres.
Vous avez raison, Melchior. Les attentats d'hier aux États-Unis, la guerre en Ukraine, et je pourrais continuer la liste pendant les 2 minutes 50 que vous m'offrez, sont autant de marqueurs de la difficulté de vivre ensemble, en paix. Et c'est ce mot « paix » associé à « vivre ensemble » qui change tout. Car on peut vivre les uns contre les autres, les uns à côté des autres, mais vivre avec les autres en paix semble aujourd'hui encore un vrai défi. Pourtant, la crise écologique devrait nous faire réfléchir à cette notion de vivre ensemble. Car ce n'est pas une parabole, Melchior, chrétienne, mais l'eau va monter et tel Noé, nous allons nous retrouver dans un bateau qui va traverser les tempêtes. Bien sûr, on peut faire le choix d'en balancer quelques-uns par-dessus bord, mais qui fait le choix? Vous, Melchior? Sur quels critères? Les plus riches, parce que ce sont eux qui ont le plus pollué, le plus détruit l'environnement. Mais là aussi, quitte à me faire taxer de naïf, j'adhère à la parole de Luc. Ne jugez point et vous ne serez point jugé, ne condamnez point et vous ne serez point condamné. Et je préfère militer, in fine, pour travailler le vivre ensemble maintenant, pour que lorsque les eaux monteront, nous évitions au maximum les affrontements.
Et ça signifie malgré tout que vous pensez que le vivre ensemble se cultive?
Alors quitte à passer pour un naïf une troisième fois dans cette chronique, oui je le crois, Melchior. Même si, j'avoue, ce n'est pas toujours facile. Alors comment fait-on? Ça peut sembler paradoxal, mais pour bien vivre avec les autres, la première chose à faire est de travailler son état intérieur. Faire en sorte que face à une contrariété, vous puissiez ne pas nourrir ces tensions et ne pas mettre un coup de canif à se vivre ensemble. C'est ce que les philosophes grecs et notamment les épicuriens appellent l'ataraxie. En résumé, il s'agit de tendre vers un état qui désigne l'absence de troubles dans l'âme, la quiétude, la tranquillité de l'esprit. En cultivant cette ataraxie, vous deviendrez ce que les philosophes grecs appelaient un citoyen responsable. Il ne s'agit pas de s'isoler des autres, mais de cultiver son harmonie intérieure pour vivre avec les autres en paix. Un peu comme un orchestre symphonique où chacun travaille son instrument de son côté, mais quand tout le monde joue ensemble, le tout est bien plus agréable que chaque instrument individuel. La méditation est un des outils les plus puissants pour cultiver l'ataraxie. Il en existe de nombreux autres, en voici un très simple. Pensez à une personne que vous n'appréciez pas et maintenant cherchez-lui une qualité que vous n'avez pas et qui pourrait vous servir. Répétez cet exercice régulièrement, car pour conclure, comme le disait Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.
Merci beaucoup Pascal Gréboval pour cette chronique très inspirante et on peut aller plus loin en retrouvant des solutions écologiques, sociales sur le site kaizen-magazine.com. Oui, très inspirante cette chronique, Gaëtan Bouchard-là de Chazotte. Cultiver le vivre ensemble, je reprends un peu l'élément phare de sa chronique de Pascal. Est-ce que vous pensez que Pauline Géricault cultivait ce vivre ensemble?
Alors, sans doute, elle n'aurait pas utilisé ces mots-là, oui. puisque c'est une autre époque. Mais de fait, elle vivait dans cette maison de Lorette, même si elle-même n'était pas religieuse, avec avec une petite compagnie de demoiselles qui avait une vie religieuse. Donc, elle vivait ensemble. Elle a toujours beaucoup accueilli. Parce qu'on accueillait chez elle, on accueillait les pauvres, enfin on leur donnait des coups de main. Et donc il y a eu une époque où la maison de Lorette, que vous certains peuvent connaître aujourd'hui,
à Lyon,
ouais. à Lyon, qui est un lieu paisible, un lieu de mémoire autour de Pauline Jaricot, un lieu de prière avec une communauté qui y vit et un lieu de mission puisqu'on y cherche à faire découvrir la mission de l'Église aujourd'hui. Eh bien, cette maison était une fourmilière, donc il y avait un vivre ensemble. Après, la question sociale dont elle va traiter est aussi une question de vivre ensemble. Voilà. Donc, je pense que là, oui, effectivement, Pauline est tout à fait en phase avec ce qu'on vient d'entendre.
Gaëtan Bouchard-Lachazotte, vous êtes le secrétaire général des œuvres pontificales missionnaires. Vous êtes accompagné aujourd'hui de l'abbé Kom Taiyewa Djomale. Vous êtes le directeur national des OPM au Bénin. Donc on l'a entendu, hein, peut-être une mission commune aux deux entités des OPM au Bénin et ici en France. Qui gère tout ça? C'est Rome, Gaëtan?
Alors oui, effectivement. Enfin, disons que l'organisation centralisée est à Rome. Après, chaque direction nationale a une certaine autonomie. Oui. Nous rendons compte de nos actions. Et voilà. Alors, en France, il se trouve, l'abbé Kom dira s'il le perçoit de la même manière, mais comme nous sommes un peu le lieu de fondation, comme il l'a cité tout à l'heure, il y a 4 œuvres pontificales et il y en a 3 qui sont françaises. Donc on a ce côté un peu maison mère, si je puis dire, en tout cas dans l'histoire, et qui fait que on est peut-être plus regardé, plus attendu sur certains sujets. Voilà, mais c'est lié à l'histoire. Sinon, nous sommes une direction nationale comme beaucoup d'autres. Et bien sûr, nous ne sommes pas d'ailleurs la plus importante. D'autres pays ont des bureaux beaucoup plus importants que les nôtres. Voilà. Et effectivement, tout cela est, en tout cas, en termes de réflexion, de travail sur les projets, de soutien des diocèses, tout ça est travaillé beaucoup par Rome, la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, dont nous formons la deuxième branche. Hein, cette congrégation a pour mission de gérer l'ensemble des églises, les jeunes églises, les églises des territoires de mission, à peu près 1300 diocèses, c'est-à-dire un tiers de l'église est géré par cette congrégation. Et donc il y a toute une partie de gestion des églises, préparation des nominations des évêques, des supérieurs de séminaires, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et puis la deuxième partie, ce sont les œuvres pontificales missionnaires.
Abbé Kom Taiyewa Djomale, quelle est la place des OPM au Bénin?
La place des OPM au Bénin, disons tout de suite, c'est de réveiller la conscience et sur notre identité de missionnaire, parce que nous sommes baptisés. C'est ce à quoi nous attelons depuis 2018 que nous sommes là. Je suis le 5e directeur, donc tous les 4 autres aussi ont travaillé dans ce sens-là. Et faire connaître les OPM, parce que très souvent on ne parle des OPM que lorsqu'il s'agit des quêtes impérées. Nous en faisons 6, nous, au Bénin. Je ne vais pas les citer ici parce que le temps qui nous a imparti. Mais parmi les plus importants, nous avons la Journée mondiale des missions, hein, dernier dimanche du mois d'octobre. Nous avons aussi la quête pour les séminaires, pour la Journée mondiale le dimanche du bon pasteur. Et puis nous avons la quête pour l'enfance missionnaire à l'Épiphanie. Il y a 3 autres que nous coordonnons. Donc ça pour dire simplement que les OPM au Bénin sont présentes, mais elles font leur petit bonhomme de chemin parce que c'est très compliqué pour nous de pouvoir... lorsqu'il s'agit de la collecte, on se demande est-ce que Rome n'est pas suffisamment riche pour qu'on lui fasse encore d'aumône ou qu'on lui fasse encore de quête? Non, nous disons non. C'est une marmite commune. Chacun apporte des ingrédients pour qu'on fasse une sauce qui va servir à toute la famille. Donc nous leur disons que c'est comme si nous retournons au premier temps de l'Église où les croyants d'un seul cœur mettaient tout en commun. Et nous ne se disaient propriété ce qu'il avait, on vendait tout, on mettait tout ensemble, on faisait les collectes ensemble. Et c'est ensemble maintenant qu'on redistribue selon les besoins de chacun. Et très souvent même, il faut le reconnaître, et saluer ici tous les efforts des églises, des directions nationales comme la France, qui donnent beaucoup et qui ne reçoivent même pas, ou qui reçoivent très peu. Donc ça veut dire que nous leur demandons, hein, c'est à notre profit même que ce que les autres font. Donc nous avons nous aussi apporté notre côte-barre pour pouvoir aller de l'avant, parce que c'est dans ce sens de la solidarité qu'on pourra aller à de l'avant. Et c'est le sens de la mission.
Et vous êtes nombreux dans les OPM au Bénin?
Nous avons, c'est une certaine, comme il a dit, c'est Rome qui coordonne.
Oui.
Mais chaque direction nationale a son autonomie. Et donc, gère et rencontre à Rome, au mois de mars. Au plus tard, la mi-mars, il faut envoyer 8 rapports à Rome. Chaque secrétariat national et international a droit à un rapport pastoral et un rapport financier. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Nous sommes, il y a le directeur national. Comme parrain du directeur national, nous avons l'évêque chargé des missions, qui est comme toujours le parrain, ou bien le porte-parole des OPM du Bénin, ou bien de toutes les directions nationales. C'est comme ça que ça se passe dans les autres pays, auprès de la conférence épiscopale, avec qui il faut tout garder une étroite collaboration, parce que les OPM ne sont pas désincarnés, elles s'insèrent dans une église locale, elles peuvent travailler avec cette église locale. Après ça, nous avons le directeur national. Il peut travailler seul. C'est vrai qu'il a les quatre œuvres dans sa main à coordonner. S'il le veut vraiment, parce que la loi lui laisse, les statuts lui laissent les mains libres de pouvoir choisir. Moi, j'ai choisi de nommer il y a un an deux secrétaires nationaux. Un secrétaire national pour coordonner l'enfance missionnaire. Qui est l'œuvre la plus développée, c'est les enfants sont eux qu'on voit sur le terrain. Et nous avons aussi l'œuvre de Saint-Pierre, pour passer dans des séminaires. Il faut éveiller la conscience des séminaristes pendant qu'ils sont en formation, ou les novices, ou postulants, pour dire. Ce que nous recevons, pour que votre formation soit adéquate, on a besoin quand même d'un peu de. On dit, il faut le minimum pour faire la vertu, un peu de minimum. Donc, ce qui sert, ce que nous faisons comme collecte, sert pour les séminaires. Donc, on a besoin que les séminaristes entendent cela et très tôt, avant même d'être sur le terrain, acceptent ou choisissent déjà d'être missionnaires, avoir accès à conscience et identité. Donc, c'est comme ça. Après ça, les deux secrétaires des OPM, les secrétaires nationaux, nous avons les directeurs diocésains qui travaillent avec nous. Et aux côtés des directeurs diocésains, nous avons les aumôniers de l'enfance missionnaire. Donc jusqu'à la base, oui, du sommet à la base.
On va marquer une petite pause dans Je pense. Donc, j'agis, on continue d'en parler jusqu'à 11h. Dans un instant, toujours avec vos appels au 04 72 38 20 23, vos témoignages par mail également à direct@rcf.fr. À tout de suite.
Pourquoi devrais-je croquer la vie? Et à quoi bon si mes envies ou si elles-mêmes ne me mènent nulle part? Le temps est imparti et l'infini s'enfuit ailleurs. C'est pas trop tard mais je suis coincé quelque part. J'ai pas la chance du débutant. Je reconnais que trop souvent j'ai pris du retard pour en boire une dernière au bar. Y'a tant de place dans mes bagages. Il est si long le démarrage. Pas de plan, dis-moi qu'on sera jamais grand. Et puis toi, dis-le-moi, si je ne fais rien de moi, qu'est-ce que je pourrais bien lui dire à cette étoile qui me regarde d'en haut et qui me suit? Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire à cette étoile qui me regarde d'en haut et qui me suit? Comme toi, je veux refaire la peinture, même si je sais qu'on va dans le mur, fuir le passé sans laisser mon âme en chantier. Ton secret, dis-le-moi. Tu sais, même si tu te démènes, ma belle Maïwenn, quoi qu'il advienne, c'est deviné, même les fontaines seront vidées. Moi je vis de paresse, de soir, d'été, de nuit, d'ivresse, faut m'activer, je t'en prie, me laisse pas tomber. Et puis toi, dis-le-moi, si je ne fais rien de moi, qu'est-ce que je pourrais bien lui dire à cette étoile qui me regarde d'en haut et qui me suit? Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire à cette étoile qui me regarde d'en haut et qui me suit? Je sais que je semble un peu égaré, que je me plains, que je fais rien, mais prends ma main, reste jusqu'à demain matin. C'est les années qu'il faut laisser faire, et ça me fait peur, mais c'est pas l'heure de se coucher. Laisse-moi t'en payer un dernier, et t'aimer, et t'emmener loin. Car si je vis pas près de toi, qu'est-ce que je pourrais bien lui dire à cette étoile qui me regarde d'en haut et qui me suit? Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire à cette étoile qui me regarde d'en haut et qui me suit?
à cette étoile. C'était Baptiste Vendadour sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et nous parlons des OPM, les œuvres pontificales missionnaires, jusqu'à 11h ce matin dans Je pense, donc j'agis, avec nos deux invités, Abbé Kom Taiyewa Djomalé, le directeur national des OPM au Bénin, et puis Gaëtan Boucharla de Chazotte, secrétaire général des œuvres pontificales missionnaires en France, de France. Quel est votre lien avec Rome, avec le pape François, Gaëtan?
Alors, si vous voulez, on est évidemment, nous dépendons directement de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, qui tient beaucoup à cœur au pape François, puisque dans la nouvelle organisation de la Curie romaine, il est prévu qu'il agisse directement par cette congrégation lui-même, et cette congrégation devient la première de la Curie. Donc, cette question de l'évangélisation est une question très très importante et très forte pour le pape François. C'est lui qui nous a rappelé notre rôle de disciple missionnaire, selon les expressions qu'il affectionne. Voilà, en fait, effectivement, l'ensemble de l'organisation dépend du travail de ce dicastère. Voilà. Donc, nous avons à la fois le dicastère nous donne nos statuts, nous les rappelle, nous avons des exigences, notamment par exemple, alors c'est difficile dans nos pays occidentaux parce que les coûts de la recherche de fonds par exemple, ou même des salaires sont importants, mais normalement nous ne devons consommer sur les sommes qui nous sont données pas plus de 15%, tout en assurant de l'animation missionnaire dans les diocèses, dans les paroisses, soit autant qu'on nous pouvons le faire. Voilà.
Donc c'est Rome qui gère la tirelire, si je puis dire.
Alors, c'est une expression... oui, c'est un peu hardi.
Oui, voilà. Tout à fait.
Non, c'est pas Rome qui gère la tirelire. Disons que Rome va être au courant du résultat de la tirelire. Et puis, elle va avoir nos comptes. Et donc, Rome peut nous faire des commentaires sur la manière dont nous avons géré les œuvres dans nos pays. Voilà. Et puis ensuite, nous, de la tirelire que nous proposons, Rome va proposer des financements. Je crois que c'est important aussi de comprendre qu'il y a deux types de financements aux OPM. Il y a des financements que nous appelons ordinaires, qui sont en fait un genre de denier du culte international. C'est-à-dire que chaque diocèse de ces territoires de mission, chaque jeune église va recevoir une aide pour le fonctionnement du diocèse et va recevoir une aide pour le fonctionnement du séminaire ou des séminaires. Et c'est très important. C'est très important.
Alors,
il y a des calculs, si vous voulez, qui sont un peu arithmétiques, parce qu'il faut bien, on est avec de l'argent, il faut bien que les choses soient calculées et organisées. Mais dans certains pays, s'il n'y a pas l'aide des OPM, l'aide des OPM peut faire fonctionner le séminaire pratiquement pendant les deux tiers de l'année. S'il n'y a pas cette aide-là, ben le séminaire ne peut pas fonctionner. Il n'existe plus. Je crois que c'est important aussi de souligner l'intérêt général pour l'ensemble des églises et territoires de mission des OPM. On n'est pas là pour aider une situation de crise. Il y a des endroits où, Dieu merci, la mission est joyeuse et n'est pas forcément, tout le monde n'est pas martyr parce qu'on est en mission sur un territoire de mission. Et là aussi, il faut y penser. C'est-à-dire que nous n'agissons pas uniquement pour des zones où l'Église est en difficulté, mais nous agissons sur toutes les églises des territoires de mission qui peuvent avoir des besoins, même si elles ne sont pas en difficulté politique ou de persécution. Et si les OPM n'existaient pas, ben ces églises n'existeraient pas non plus. Autrefois, on avait un schéma missionnaire qui était très lié à la vie des congrégations missionnaires, qui était souvent européenne, voire française. Hein. Et aujourd'hui, ben, les vocations dans ces pays sont beaucoup moins importantes. Et donc, la mission n'est plus forcément assurée par ces missionnaires-là. Et qui disait congrégation missionnaire disait aussi réseau de soutien, réseau d'amitié, qui faisait que le père missionnaire avait ses propres ressources quelque part, qui arrivaient par sa congrégation et par ses réseaux. Aujourd'hui, c'est plus le cas. S'il n'y a pas les OPM, ces églises n'ont plus les moyens de vivre.
C'est une réalité.
Ah, c'est une réalité, complètement. Alors nous distribuons par an, quand je dis nous, c'est l'ensemble des OPM, par an à peu près 150 millions de dollars, ça dépend des taux de change, ça dépend des années de collecte et des situations particulières de chaque pays. Et sur ces 150 millions de dollars qui sont distribués dans ces territoires de mission, l'essentiel part dans ces subsides ordinaires qui permettent la vie du diocèse et du séminaire. Et ce n'est qu'une fois faites ces distributions-là qu'on peut étudier les besoins complémentaires qui sont la construction de la cathédrale, d'un centre paroissial, d'une salle de catéchèse, une maison religieuse, qui sont voilà un nouveau séminaire ou un complément, ou simplement le confort d'un séminaire. On est, nous, en Europe, sur des schémas de confort qui sont bien loin de ceux eux que peuvent vivre les séminaristes. Il y a des séminaires où il n'y a même pas de livres pour travailler. Donc il faut constituer les bibliothèques. Je vous parle pas des conditions sanitaires qui sont pas du tout celles qui sont à notre niveau en Europe. Donc il y a vraiment d'énormes besoins. Et si les EPM ne le font pas, personne ne le fait.
Vous dites 150 millions de dollars qui sont distribués chaque année dans le monde par les OPM. C'est une moyenne. Est-ce que c'est un chiffre qui tend à baisser avec peut-être la situation de l'Église aujourd'hui?
Alors je vous disais d'abord, il y a des problèmes de change.
Ouais.
Donc ça peut bouleverser complètement les situations. Donc non, ça a pu être beaucoup plus. Certaines années, on a pu atteindre 175 millions de dollars, parfois un peu moins. Ça dépend beaucoup aussi des circonstances politiques des pays et des grosses collectes. Non, je ne peux pas dire que ce soit une moyenne. Hein, c'est pour donner une vision un petit peu de la distribution.
Ouais. Au Bénin, ça se passe comment, pareil, pour la redistribution après?
Bon, dès que nous faisons la collecte, la dernière quête impérée, il faut dire, dans l'année, c'est la quête des missions.
Oui.
La quête des missions, donc l'avant-dernier dimanche du mois d'octobre. Donc, entre décembre et janvier, toute la collecte vient à la direction nationale, qui signale ça à Rome, qui met les fonds à la disposition. Après, prélever, bien sûr, les 15% qui reviennent pour le fonctionnement de la direction nationale. Après cela, le reste est mis à la disposition du Fonds universel de solidarité et des 4 secrétariats. Et ces secrétariats, je crois, entre avril et mai, proposent un peu le schéma selon les besoins du pays, selon, comme il a dit, les services ordinaires et les services extraordinaires. Parmi les sujets ordinaires, on peut ajouter aussi un peu la catéchèse qui rentre un peu dans ce fonctionnement parce que c'est l'instrument primordial pour la propagation de la foi. Donc les autres là que c'est disponible, on peut par exemple dire au Bénin, si vous avez collecté pour, je suppose, 15 000 euros comme ça, que vous avez collecté, ou bien 12 000 euros que vous avez collecté pour cette année, pour la Journée mondiale des missions, envoyez cela pour 2 séminaires du Togo. C'est-à-dire que ça ne reste pas dans le pays pour que l'Église sente que, même si c'est le peu qui est envoyé là, c'est quand même envoyé de la part d'une Église. Et c'est comme ça qu'on fait la redistribution. De sorte que, quand on a fini de prélever, comme je le disais tantôt, ce qui est à la direction nationale, le reste est à la disposition des secrétariats.
Oui. Oui, allez-y Gaëtan. Oui.
Je veux juste préciser un petit peu le fonctionnement qui pour nous deux nous paraît très simple et très facile parce qu'on nous baignons dedans. Mais peut-être pour mieux faire comprendre à vos auditeurs, nous parlons d'un fonds universel de solidarité ou que nous appelons le fonds missionnaire mondial. Il ne s'agit pas d'un portefeuille physique dans lequel l'argent est envoyé à Rome. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est plutôt un calcul arithmétique. Nous donnons, chaque direction nationale indique le montant de la collecte disponible et ensuite, après cette assemblée que nous sommes en train de vivre en ce moment à Lyon, nous avons pris des décisions communément sur les distributions. Et ensuite, les secrétariats, nous avons été acteurs de la décision. Chaque direction nationale est actrice de la décision de distribution. Et ensuite, les secrétariats internationaux, donc œuvre par œuvre, vont nous dire, vous, France, faites tel et tel et tel versement. Et c'est bien nous, depuis la France, qui viront directement dans les diocèses où il est prévu un subside.
Entre l'annonciature.
Voilà. Alors après, il y a notre travail avec l'annonciature.
Mais il y a un vrai suivi, j'ai l'impression, quand même, des finances. Hein.
Ah oui, il y a un vrai suivi. Alors en plus, c'est un suivi intéressant parce que on ne crée pas de la dépense pour contrôler, pour vérifier, choisir et contrôler les dossiers. Puisque ce sont les directeurs nationaux qui valident les demandes qui sont faites par les diocèses. Et qui sont susceptibles aussi de vérifier, ainsi que le nonce. C'est-à-dire que nous, les nonces dans tous les pays qui vont recevoir des fonds sont habilités à contrôler l'usage des fonds. Donc en fait, on ne crée pas un deuxième réseau de contrôle et de ramassage des projets, mais on utilise l'Église locale. Les OPM, c'est vraiment l'Église. C'est-à-dire que ça fonctionne grâce à l'Église et c'est l'Église qui assure son contrôle. Voilà. Et il y a des accidents de parcours. Je peux pas dire qu'il y en a jamais, mais ces accidents de parcours sont vus quoi. Je peux raconter une petite histoire.
Allez-y, allez-y.
Parce que ça m'a beaucoup touché. J'arrivais aux OPM il y a quelques années. Et nous avions un grand donateur qui avait que nous avions déjà rencontré plusieurs fois. Il n'était pas encore donateur et il avait rencontré un prêtre dans sa paroisse de campagne. Ce sont des gens qui avaient pas mal de moyens, mais qui vivaient de manière modeste et donc on ne pouvait pas savoir qu'ils avaient ces moyens-là. Et ce prêtre a fait un prêche touchant et il a parlé notamment d'une école qu'il souhaitait soutenir en disant qu'il y avait un besoin important qui était de 150 000 euros. C'était effectivement un besoin très important pour le pays en question. Cette personne m'appelle un peu comme une espèce de test pour voir ce qu'on était capable de faire, puisqu'on avait déjà eu des discussions, en me disant, mais écoutez, voilà, j'ai vu ce prêtre, je souhaiterais aider ce projet qui m'a touché, parce que l'éducation des enfants est quelque chose d'important si on veut faire grandir ces pays. Et donc, il veut 150 000, je vais quand même pas lui donner 150 000 euros, je vais lui donner 100 000, ce qui était une somme considérable. Et donc, je lui dis, bah, écoutez, oui, monsieur, pourquoi pas. Alors, on n'aime pas trop faire ça. C'est-à-dire qu'en général, on ne piste pas un projet particulier, ouais, qui va être directement financé. Mais là, compte tenu du contexte et compte tenu de la relation naissante avec cette famille, je lui dis, bah, écoutez, envoyez-moi le dossier, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, effectivement, j'en parle à Rome et on accepte de faire ce transfert. J'ai une petite réserve parce qu'il y avait tout un dossier avec des comptes en Europe, etc. Je rappelle ce monsieur, je dis, écoutez, voilà, est-ce que vous souhaitez que nous passions par le réseau des EPM ou est-ce que je fais ce qui est prévu dans ce dossier? Non, passez par le réseau des EPM. Donc j'envoie les 100 000 euros à l'annonciature du pays en question. Ça dure 3-4 jours, le temps que les choses se fassent. Et là-dessus, je reçois un coup de fil du nonce, absolument furieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? De quoi se mêlent les EPM? Cette école n'a rien à voir avec une école catholique. L'évêque est furieux, je suis furieux, enfin bon, tout le monde était furieux.
Bonne ambiance alors. Bonne
ambiance. Alors je dis, écoutez, je n'y suis pour rien, c'est un don affecté, ce n'est pas une décision véritablement des EPM, mais je vais me retourner vers le donateur et puis nous verrons ce que nous faisons.
Mais donc, pourquoi il n'était pas content, le nonce?
Parce qu'en fait, c'était un projet privé. Oui, c'était une déviation des fonds. Quoi. C'était, voilà. Ah oui. Donc ce projet n'était pas un projet de l'Église.
Ouais,
voilà. Bien que ce projet ait été présenté par un prêtre qui avait assuré une prédication.
Et donc c'est important que tout soit bien
sûr. C'est là où je dis l'importance de l'organisation de ces EPM. On est toujours un peu surpris, on a l'impression que c'est une énorme institution, des tas de lieux de décision, que c'est compliqué, que les transferts sont longs. Enfin, il y a toujours des tas de remarques qui nous sont faites. Ouais. Mais c'est la sécurité. Et bon, j'appelle ce donateur, je lui explique la situation avec beaucoup de tact, parce que j'étais très ennuyé, évidemment. Surtout qu'on n'avait pas la relation qui est devenue amicale par la suite. Et là, il a pris un temps de recul. Il s'est rendu compte de l'assurance qu'il avait à passer par l'Église. Et il m'a dit, écoutez, vous récupérez les fonds, vous en faites ce que vous voulez. Et je vais devenir donateur régulier. Ce qu'il a fait.
Voilà. Ouais, une histoire qui se termine bien.
C'est une très belle histoire.
Voilà. Je voulais juste ajouter que... Oui. Un projet porté par un prêtre n'est pas forcément un projet catholique. Parce que je peux avoir un projet pour une école de mon village. Il n'est pas dit que c'est une école catholique. Donc si ça doit passer par les OPM, ça doit devenir une affaire, un projet que porte avec moi le diocèse.
Voilà.
Mais quand c'est privé, c'est ce qui est arrivé là.
Voilà. Alors, vous êtes au Bénin, oui. Vous êtes quand même à quelques kilomètres de Rome, hein, c'est loin, oui, qu'on puisse dire. J'ai pas fait le calcul exact, mais ça doit être quand même plus de 3000, hein, 3500 kilomètres à vol d'oiseau, on va dire.
Oui.
Est-ce que vous êtes bien accompagné par Rome, ou alors vous avez l'impression de gérer, on va dire, votre affaire au Bénin un peu seul?
On peut même dire et on est trop bien porté. Je l'ai même ajouté trop. Parce que avoir la paperasse qui vient pour au niveau de l'administration, ce n'est pas facile du tout. Dès que vous êtes nommé, vous allez à Rome pour une formation. Et à l'issue de l'Assemblée générale, il y a une formation qui est prévue pour les nouveaux directeurs. Moi, j'ai eu cette formation en 2019, pour être nommé en 2018. Donc c'est au cours de cette formation-là qu'on vous apprend, même dans les détails, comment il faut remplir les formulaires, comment il faut faire, comment il faut la collaboration avec les évêques, avec les directeurs diocésains, et comment répondre aussi aux courriers. Parce que les courriers, ça vient vraiment. Chaque secrétariat vous écrit comme si c'est à elle seule que vous devez pouvoir répondre. Alors qu'ils sont quatre, les quatre secrétaires. Donc ça veut dire que, dès que vous êtes, c'est un réseau mondial, vous êtes dans ce réseau mondial ecclésial, vous n'êtes plus, disons, une île, ou bien quelque chose d'isolé, vous communiquez directement avec Rome et vous êtes suivi. Oui. Voilà, c'est ce qu'on peut dire.
Oui, parce que c'est quelque chose qui revient souvent. On a l'impression que vous êtes un peu la voix du pape, alors que pas du tout. Enfin, vous recevez aussi beaucoup de courriers par rapport à des décisions du pape, par exemple.
Si vous voulez, à partir du moment où nous avons ce titre de pontifical, en fonction des fidèles...
C'est une étiquette qui est collée à la peau, quand
c'est
même.
Une étiquette, voilà. Alors, d'ailleurs, on s'en cache pas. Je veux dire, en fonction des papes, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Enfin, nous, on n'est pas là, on n'est pas dans ce débat du tout. Mais de fait, on reçoit du courrier sur certains propos du Saint-Père. Et de la même manière que nous, quand on fait un faux pas, il y a des courriers qui peuvent partir parfois à l'annonciature, etc. Oui. Et donc, on est extrêmement prudent aussi, et évidemment. Et on n'est pas là du tout pour rentrer dans des questions de sensibilité d'Église qui existent. Voilà, c'est la vie. Nous, on est là pour faire en sorte que la mission puisse se réaliser. Et donc, en ce sens, nous dépendons du Saint-Père. Alors, le Saint-Père est... Alors, ici, ça ne sera pas le cas, mais quand nous avons notre assemblée annuelle, nous avons toujours une audience avec le Saint-Père. Enfin, les OPM, pour le Saint-Père, c'est quelque chose d'important et qui compte.
Vous le rencontrez souvent
Non,
à titre personnel, je ne sais pas.
Peut-être l'abbé Gaume a peut-être vu le Saint-Père souvent. Non, on a l'occasion, comme ça, lors des assemblées, tous ensemble, de rencontrer le Saint-Père. Après, en fonction de nos histoires, oui, on a peut-être un peu plus accès que n'importe quel fidèle, mais non, on rencontre pas le... En revanche, la congrégation, oui. Le cardinal préfet rencontre le Saint-Père très très régulièrement pour rendre compte de l'activité de la congrégation, dans laquelle il y a aussi l'activité des OPM. Voilà. Donc effectivement, le Saint-Père est très proche de toutes les congrégations, d'ailleurs.
Oui. Pour montrer son attachement, il est toujours présent et lors des assemblées générales. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. En 2019, il préparait un voyage, je crois, en Roumanie. Il n'a pas pu me rencontrer, mais il exprime toujours son attachement par rapport aux OPM.
Donc, c'est un chef d'État.
C'est vraiment pontifical.
Justement, restons sur le pape François. J'ouvre une petite parenthèse. Oui. Quel est son lien, est-ce qu'on sait, avec Pauline Jaricot? Est-ce qu'il la connaissait quand il était pas pape encore? Est-ce que...
Oui. Oui, il la connaissait parce qu'en fait, Pauline Jaricot est très connue en Amérique latine.
Ah oui.
Donc, il connaissait Pauline Jaricot et c'était une cause qui lui tenait à cœur. Bon, c'est une cause qui était beaucoup soutenue par le cardinal Barbarin, comme vous le savez. Et on avait d'ailleurs vécu une année jubilaire à l'occasion du 150e anniversaire de sa mort. Et c'est au cours de cette année jubilaire, d'ailleurs, que le miracle de la petite Méline a eu lieu. Hein, donc, tout ça est quand même très, très lié. Et dans le dossier de béatification, moi, j'ai eu l'occasion de lui dire, il faudrait pousser un peu ce dossier. Il savait de quoi on parlait, quoi. Il y a bien sûr pas du tout de. Il connaît Pauline Jaricot. Il y est sensible.
C'est quand même incroyable que Pauline Jaricot soit quand même connue. Vous avez dit en Argentine, alors qu'en France, on ne la connaît pas assez, je trouve. Comment ça se fait que on la connaisse beaucoup à l'étranger comme ça?
Je n'ai pas tous les ressorts de la réponse.
Pas sociologue,
Oui, voilà, je suis pas sociologue. Merci. Mais en revanche, il y a peut-être un élément, moi, qui m'a été apporté notamment par l'Amérique latine en marchant à Lyon avec un jeune Chilien, qui lui, tout d'un coup, s'arrête de marcher et il me dit, j'ai beaucoup de chance d'être à Lyon. Alors, moi, je suis un peu fier parce que je suis lyonnais. Je dis, oui, tu as raison. Mais pourquoi quand même tu dis cela? Et il me répond, parce qu'ici, il y a des saints partout. Alors je pense que c'est aussi un élément, c'est-à-dire que nous en Europe, et alors la France, on est habitué aux saints, et de fait, vous prenez mais même ne serait-ce que les saints du diocèse de Lyon. Est-ce que vous avez fait un jour la liste des saints du diocèse de Lyon? Je l'ai mise dans les dossiers de tous les directeurs nationaux. Il y en a 2 pages. Voilà. Ouais. Donc, alors que vous avez des pays, notamment en Amérique latine, où ils ont 2 saints. Donc forcément, ils s'intéressent aux autres saints. Et quand en plus c'est des saints qui vous ont apporté l'évangile, forcément vous les connaissez. Je dis pas qu'on a pléthore de saints et qu'on en a plus besoin, puisqu'on est tous appelés à la sainteté. Ouais. Mais de fait, c'est un peu différent comme perception.
C'est lequel qui est plus connu? Saint-Irénée, Saint-Potin? De saints du diocèse de Lyon? Ou alors ils sont tous
à l'étranger,
très respectés? À l'étranger, oui, pardon.
À l'étranger, c'est Sainte-Blandine.
Sainte-Blandine.
Qui a beaucoup prié. Bon. Ouais. De temps en temps, début juin, je crois que c'est le 2, non? Ou 4?
Saint-Irénée.
Saint-Irénée, parle de Saint-Irénée, de Lyon.
C'est 28 juin, Saint-Irénée.
28 juin, oui, mais c'est parce que Saint-Irénée.
Je parle de Saint-Blandine, quoi, et Saint-Potin.
Oui, Saint-Potin, Saint-Blandine, oui.
Ouais, donc Lyon inspire.
Nous avons hâte qu'on parle aussi de Pauline Jaricot comme cela. Nous avons hâte d'entendre parler de Pauline Jaricot.
Et alors justement, alors oui. Donc elle va être béatifiée dimanche, Pauline Jaricot. Ça oui. veut dire qu'elle elle va devenir
bien heureuse,
donc proclamée bien heureuse. C'est quoi l'étape après? Est-ce qu'elle elle va être canonisée? On le sait. Est-ce que c'est le cheminement logique?
Alors oui, de toute façon, pour être saint, il faut d'abord avoir été bienheureux. Oui. Et donc c'est évidemment une étape. Mais le process est le même, c'est-à-dire qu'il va falloir un deuxième miracle. Et donc il faut beaucoup prier Pauline Jaricot. Oui. La congrégation pour la cause des saints.
Ah, il en faut deux.
Il faut un deuxième miracle pour la canonisation.
Et là, il y en a qu'un pour l'instant.
Il y en a eu un, voilà. Mais ouais. de toute façon, ils peuvent pas être simultanés. C'est-à-dire que non, mais l'Église est très exigeante, mais elle est prudente aussi. Donc c'est bien. C'est-à-dire que si aujourd'hui on nous annonce un miracle, Pauline Jaricot, normalement, il faudrait que ce miracle ait lieu après la semaine prochaine, quoi. Donc si le miracle a lieu avant la béatification, il ne sera pas pris en compte pour une canonisation.
Ah, donc ça peut prendre beaucoup de temps, non?
On a encore quelques jours où c'est pas la peine de prier Pauline Jaricot.
On espère que ça ira plus vite que.
Et voilà.
Passer entre servante de Dieu, vénérable, depuis 1963.
Oui, c'était Jean-Vincent.
Ça fait 53 ans.
On
espère que la canonisation ira plus vite.
Alors, la congrégation pour la cause des saints avec laquelle on a été très en rapport pour le miracle de la petite Méline, me disait que très fréquemment, il y avait des événements extraordinaires, enfin des miracles qui se passaient pendant les cérémonies de béatification. Alors on compte sur l'ensemble des fidèles qui seront présents ou qui même de loin pourront prier Pauline Jaricot pour un cas particulier et voilà, on attend de telle manière. Il nous faut un deuxième miracle, voilà, avec une instruction qui durera forcément quelques temps puisqu'il faut faire pas mal de vérifications, à la fois sur le plan médical et sur le plan théologique.
Donc Eurexpo à Lyon. Ce sera ce dimanche 22 mai à suivre sur Internet, hein, j'imagine, pour celles et ceux qui peuvent pas se rendre sur place. Et sur RCF, bien sûr, je le précise. Et on est ravis, hein, de pouvoir diffuser ce grand événement de la béatification de Pauline Jaricot. Vous attendez combien de personnes? Est-ce qu'on sait un peu?
L'acteur de la cause est le diocèse de Lyon, donc c'est plutôt eux qui organisent.
Vous organisez pas? Enfin, vous avez travaillé quand même pas mal avant.
On est associé avec le diocèse, on donne le coup de main qu'on peut donner, mais véritablement l'acteur, c'est-à-dire celui qui a porté la cause. Alors nous, il se trouve que c'est notre fondatrice, que nous sommes aussi l'adresse de la postulation, que nous sommes administrateurs de la cause, tout ça c'est des vocables qui sont ceux de l'Église. Voilà, donc on est associé, mais c'est vraiment le diocèse. Et le diocèse espère plus de 10 000 personnes. Voilà, on espère qu'on arrivera. En tout cas, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. De toute façon, on peut y aller sans inscription, mais on peut aussi s'inscrire. Ça permet de mieux cibler et d'organiser la célébration sur place. Donc, sur le site du diocèse, sur le site des OPM. Et tout le monde est attendu.
Et ce sera à suivre en direct sur RCF ce dimanche 22 mai à partir de 14h. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Gaëtan Bouchard-Lat de Chazotte, je rappelle que vous êtes le secrétaire général des œuvres pontificales missionnaires de France. Et puis Abécom Taïewo Adjomalé, merci à vous, directeur national des OPM du Bénin. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Je vous renvoie sur le site internet opm-france.org. Ça, c'est pour vous, Gaëtan. Et puis pour le Bénin, c'est le site... je l'ai perdu. Si, opm-bénin.com, hein, tout simplement. Merci à Pascal Gauthier et Catherine qui ont permis la réalisation de cette émission. Et on se retrouve demain de 9h à 11h. Donc, je pense, donc j'agis avec Anne Kerléo. Passez toutes et tous une belle journée avec RCF.
Merci, Melchior.
Merci.